Vous écoutez France Culture. À voix nue. Toute cette semaine, Mélanie Chalandon rencontre Florence Delay. Ce soir, la quête du théâtre.
Bonsoir Florence Delay et merci de nous recevoir chez vous, boulevard Saint-Michel à Paris. Florence Delay, je rappelle que vous êtes écrivain et essayiste, vous êtes aussi traductrice, agrégée d'espagnol, vous êtes également comédienne et scénariste, et vous êtes membre de l'Académie française. Nous avons parlé hier de l'une de vos passions, l'Espagne, sa langue, son histoire, ses poètes, ses arènes. Nous évoquerons ce soir une autre de vos grandes passions, une passion première peut-être, le théâtre. Est-ce qu'on peut dire que le théâtre, Florence Delay, c'est avant tout, avant le mot théâtre même, c'est avant tout, tout simplement, le jeu des enfants?
Mais oui, jouer sert aux enfants et au théâtre. Les premières rondes de l'enfance, les jeux que l'on imagine, quelquefois les enfants jouent... Aujourd'hui, je vois beaucoup jouer avec des machines, mais avant les machines, les jeux venaient de l'imagination. Et je crois que ce goût de jouer se prend petit et il va avec se déguiser, devenir un autre. Le temps de la récréation ou du jeudi qui est le mercredi ou... Ça vient, oui, de la petite enfance et certains le gardent toute la vie. Et puis après le jeu inventé, le déguisement, il y a cette chose merveilleuse qui est de prendre les paroles d'un autre et d'entrer dans un autre personnage. Comme je ne suis pas un grand amateur du moi, j'ai eu souvent envie dans ma vie d'être une autre, un autre. Et le théâtre, comme le roman, permettent cela.
Restons un instant sur le jeu de l'enfant. Est-ce qu'on peut dire qu'enfant, vous faisiez du théâtre comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, sans le savoir, Florence Delay?
Oui, comme beaucoup d'enfants, j'ai commencé à monter des spectacles. Je peux vous dire que mon premier rôle a été celui de l'âne. J'ai joué en petite classe La Revanche de Cadichon, où je devais braire de façon pathétique. Et je me souviens encore des paroles. Après mon braiement, je pouvais simplement dire « I-en, I-en, belle musique, I-en, I-en, pas compliqué ». Voilà, donc je pouvais dire. Et mon premier rôle m'a beaucoup marqué. Et puis après, au lycée, ça a été merveilleux. Chaque année, avec mes amis, on a monté en sixième un acte des Fourberies de Scapin, en cinquième, Aimerio, un poème de Victor Hugo, parce qu'il y avait beaucoup de preux. Donc toutes les filles de la classe voulaient être dans le poème. En quatrième, on a monté toutes les fourberies et un proverbe de Musset. En troisième, rien du tout parce que j'ai redoublé. Donc j'ai été punie. Donc en seconde, on a monté Fantasio de Musset. Puis ensuite, la seconde surprise de l'amour de Marivaux. Chaque année, nous montions un spectacle. Et je pensais que c'était ça, la belle vie. C'était faire du théâtre. Alors, au début, vous savez, on rêve quand on est une jeune fille. Je pensais en toute simplicité fonder une troupe, écrire les pièces que j'allais jouer. Puis je me suis aperçue que c'était très, très difficile. Et j'ai quand même gardé une certaine jalousie envers Ariane Mouchkine, que j'admire beaucoup, et sa compagnie du Soleil. Ça, ce théâtre du Soleil. Voilà, donc c'est venu très, très jeune. Le lycée n'a fait que le soutenir avec ces pièces que nous avions le droit et de monter, au contraire encouragées par nos professeurs. Et puis après, j'ai en sourdine fait l'école du Vieux Colombier. En sourdine parce que officiellement, je préparais ma licence.
En sourdine, c'est-à-dire que vous n'aviez pas mis vos parents au courant ?
Si, mais je leur ai dit que j'irais très peu, quoi. j'ai essayé de faire passer les choses. Voilà. Et
c'était si difficile à faire accepter à votre père,
mais
notamment
comme je vous disais l'autre soir, le théâtre et le cinéma étaient mal vus. On me voyait très bien professeur à la Sorbonne, ce que j'ai fini par devenir, mais pas sur les planches.
Et assez vite, c'est aussi l'écriture qui vous a intéressé dans le théâtre ?
Écoutez, non, parce que mes premières tentatives ont été d'une très grande médiocrité. Enfin, je veux dire, je me souviens très bien de la première pièce que j'ai essayé d'écrire, qui s'appelait L'Orage, ou La Révolution imaginaire. C'était une histoire, au fond, toujours sourdement inspirée par le capitaine Fracasse. C'était une troupe de comédiens qui arrivait dans une maison, entre le Tarn et l'Aveyron, dans un village extrêmement isolé, où il y avait un château, et les seigneurs n'étaient pas au courant de la Révolution française. Et les comédiens la leur représentaient. Enfin, représenter plus exactement le procès de Saint-Just. Et alors j'ai vraiment essayé, mais voilà, je n'étais pas douée. Et puis, je prendrai ma revanche bien, bien des années plus tard, quand j'entreprendrai avec Jacques Roubaud le Graal Théâtre. Mais pour l'heure, voilà, non.
Vous aviez quel âge lors de cette première tentative d'écriture ?
J'ai 20 ans. J'ai 20 ans. C'est l'été avant, l'année avant Jeanne.
Jeanne, donc l'incarnation de Jeanne d'Arc, hein,
après dans le film de Bresson. Il faut vous dire aussi, c'est important, c'est qu'aimer le théâtre, c'est y aller. Et que je suis, depuis la sixième à la philo, abonnée au TNP. Non, les abonnements ont commencé un peu plus tard. Mais j'ai vu, enfin, c'est ma... Comment dire, le Théâtre National Populaire, je ne connais rien de mieux au monde. J'y vais, je vais voir tous les spectacles. Et j'aime Villard par-dessus tout. Et quand je me décide à lui écrire et à lui demander un rendez-vous, et je pense qu'il a reçu la fille de son père et la Jeanne de Bresson.
Que vous lui demandiez-vous, Florence Delay, dans cette lettre ?
Dans cette lettre, un rendez-vous. Je pense qu'il l'a accordé. Il avait rencontré mon père et il y avait une grande sympathie entre les deux. Et puis, il y avait eu ce film qui a eu un grand prix à Cannes. Mais dans ma lettre, ce que j'avançais, c'était l'abonné. J'arrivais avec la fierté de l'abonné, qui avait vu quasiment tout. Et finalement, je crois que c'est l'abonné qui l'a reçu. Et il m'a proposé d'être régisseur stagiaire au Festival d'Avignon suivant, qui était l'été 63.
Vous ne vous y attendiez pas. L'objectif, c'était simplement de le rencontrer.
Hein. Non. Non, c'était de lui dire, je ferai n'importe quoi. Mais laissez-moi entrer. Et il m'a laissé entrer. Et donc j'ai été, j'ai été régisseur stagiaire au Festival d'Avignon de 63. J'ai été souffleur pour Thomas More dans Le Trou. C'est lui qui jouait Thomas More. C'était une pièce d'un Anglais dont j'ai oublié le nom. C'était pas une pièce extraordinaire, mais c'était une pièce à personnages et à enjeux historiques passionnants. Et puis, j'ai fait de la figuration dans la guerre de Troie n'aura pas lieu. Là aussi, c'est comme Cadichon, c'est une réplique inoubliable. Je disais « Oh là là !» Je passais avec un grand panier à linge que je tenais par une anse. De l'autre côté, il y avait Claudine Auger. Et on interrompait la discussion des adultes en riant et en disant « Oh là là !» Bon, c'était donc mes débuts. Et c'est alors que George Wilson m'a engagée comme assistante pour la première pièce qu'il montait à la rentrée suivante, puisque c'est lui auquel Villard avait confié la direction du TNP qu'il abandonnait. Il gardait celle du Festival d'Avignon.
En 1963.
1963, c'est ça.
Et là, vous étiez heureuse.
Oui. Oui. Donc, j'étais assistante de Wilson. Et après, avec un peu l'aveuglement de la jeunesse, j'ai pensé que j'étais prête. Et j'ai décidé de monter, moi, deux pièces de Calderón que j'avais traduites avec mon amie Françoise Barthélémy, La Dame Fantôme, et un acte sacramentel. J'ai obtenu une licence de spectacle, un jour de première à l'Alliance française, et par miracle, un certain nombre de comédiens m'ont fait confiance. Certains du TNP, comme Charles Denner, ou Pierre Clémenti, que j'avais connu au Vieux Colombier. Mon parrain nous a laissé son appartement de fond. Il était à la retraite. Moi, j'avais un parrain qui était médecin aussi, Louis Pasteur Valerado. Il ne pratiquait plus. Il avait encore l'appartement. Bon, il nous a laissé son appartement pour les répétitions. Et donc, je suis partie pour la vraie vie, sans me soucier de... J'ai été voir des tas de gens pour me financer. J'avais toutes les audaces. Et puis, je venais de me marier. Et mon mari a eu l'impression d'avoir une femme fantôme.
Trop occupé.
Et je pense que c'était lourd pour lui. Et voilà. Et il a dit qu'il voulait divorcer. Et à ce moment-là, l'acte sacramentel de Calderón que je montais, c'était le divorce du corps et de l'âme. Je m'en souviendrai de cette pièce, vous voyez. Et donc, j'ai tout arrêté. Tout arrêté, la vie s'est interrompue. J'ai cru que je perdais le jeune homme que j'aimais, le théâtre que j'aimais. Et j'ai vraiment eu l'impression que... Et c'est alors que mon père m'a proposé d'une certaine façon un contrat. Il m'a dit, ou tu continues la vie de théâtre à ta guise, ou tu passes l'agrégation et on t'achète un studio. Eh bien écoutez, c'est le studio qui l'a remporté. Parce que l'idée de... Enfin, comment vivre? Et donc, dans ce studio, rue de la Harpe, j'ai commencé à préparer l'agrégation. Et petit à petit, je me suis rétablie et j'ai à nouveau aimé ce que j'étais obligée de faire. Ce qui est quand même une qualité, une petite qualité. C'est-à-dire, je ne me suis pas... La nostalgie est un sentiment qui regarde vers l'arrière et qui n'est pas mon... J'essaie de ne pas trop regarder vers l'arrière. L'arrière vous rattrape suffisamment. Il fait ce qu'il veut, l'arrière. Le passé vous rattrape. Mais je ne me tourne pas en arrière. Voilà. Donc, les comédiens ont été admirables parce qu'ils auraient pu... Il n'y avait pas de contrat. On était un peu dans une aventure... comment dire, une aventure sans...
Sans engagement.
Sans engagement. Et ils auraient pu m'en vouloir et ils ont tous compris que, voilà, ça s'arrêtait. Mais alors moi, je n'ai pas pu aller au théâtre pendant des années.
Des années.
J'ai sentiment un peu de honte, de responsabilité, de n'avoir pas mené. Et puis doucement, les choses se sont réparés. Et... et elles se sont réparées par l'écriture. C'est-à-dire que j'ai rencontré Jacques Roubaud, le poète Jacques Roubaud, et assez vite, décision a été prise de travailler ensemble.
Sur l'écriture de théâtre.
De travailler ensemble, sur quoi ? Sur ce qui était un objet des froids... de regret pour moi, et pour lui quelque chose qu'il ne connaissait pas, et qui donc l'intéressait beaucoup. Et c'est alors que nous avons cherché une matière populaire, enfin dans l'optique TNP, une matière collective populaire, et nous avons cherché qu'est-ce qui était, en France, porteur encore de plein d'histoires. Or, avec le XVIIe siècle qui coupe tout, notre âge classique, c'était difficile, il fallait remonter au-delà, plus loin. Et finalement, lui, passionné par la poésie des troubadours, auquel il a consacré une magnifique anthologie, connaissant très bien les troubadours, bon, la chevalerie, etc., les noms propres qui, même si on ne connaissait plus les aventures de Merlin, du roi Arthur, etc., le cinéma avait pris le relais, un peu à Hollywood. Il n'y avait pas encore le Lancelot de Bresson et le Perceval de Romère. Bref, on a décidé de se lancer dans une entreprise un peu folle qui était en 10 pièces de rassembler beaucoup, beaucoup de contes et de conteurs de toutes les langues et à partir d'eux, d'édifier un cycle romanesque. Et parallèlement, je suis revenue au théâtre par la chronique dramatique. J'étais chroniqueur dramatique à la Nouvelle Revue Française pendant 10 années. Et c'est en écrivant donc, en écrivant des chroniques théâtrales et alors, évidemment, il n'y avait plus d'intimidation. À deux, le monde est à vous, je veux dire. Et puis, à deux, que dis-je ? Nous étions des centaines. Parce qu'il y avait Chrétien de Troyes, parce qu'il y avait Wolfram von Eschenbach, parce qu'il y avait les anonymes des continuations du Graal. Donc, tout le monde venait à notre table ronde. Tout le monde était convié.
Florence Delay, vous avez dit avoir voulu chercher avec Jacques Roubaud une matière populaire. Pourquoi ?
Parce que, je vais vous dire, j'ai jamais aimé le théâtre de boulevard. Et pour moi, le théâtre est une aventure collective. J'étais très marquée par un magnifique essai de Bergamine qui s'appelle « L'Espagne dans son labyrinthe théâtral du XVIIe siècle ». Et la matière de Lope de Vega ou Calderón de la Barca, qui sont deux immenses dramaturges, elle vient de contes populaires, de romances, d'histoires qui volent de bouche en bouche. Et ce théâtre, au siècle d'or, contrairement à la France, était très aimé du peuple. Et il y avait des théâtres partout en Espagne. Et populaire parce que c'était la position de Firmin-Gémier, puis celle de Villars, puis celle de Brecht. Voilà, c'est ça que nous souhaitions. Matière aimée de tous, destinée à tous. Et nous avons travaillé en deux temps, pendant plusieurs années, jusqu'à la parution de deux volumes chez Gallimard. Puis il y a eu un long arrêt. Un long arrêt de par la vie. Et puis une reprise. Une reprise qui a été aiguillonnée par Marcel Bozonnet, alors administrateur du Français, et qui, quand il était professeur au conservatoire, donnait souvent à ses élèves des scènes du Graal déjà parues à jouer. Et Bozonnet nous a dit, écoutez, quand vous aurez fini, la Comédie Française enregistrera tout. Alors on a travaillé encore 3-4 ans avec Arthur et on a achevé le cycle qui est paru en entier en 2005. Et voilà que, bonheur absolu, le TNP d'aujourd'hui, avec Christian Sciaretti à sa tête, et le TNS, Théâtre national de Strasbourg, avec Julie Brochaine, ont décidé, voici 2 ans, de représenter chaque année une pièce du Graal. Et cette année, ça sera Gauvin et le Chevalier Vert. L'année dernière, c'était Merlin l'Enchanteur. Et donc, vous voyez, là aussi, certains échecs surmontés ont trouvé une issue favorable.
C'est la réconciliation avec l'échec
du Calderon.
Du
oui.
Calderon, quand oui. vous aviez une vingtaine d'années.
Mais la chose la plus étonnante, c'est pour ça que le théâtre est une mine à histoire, comme la tauromachie d'ailleurs. Un des grands bonheurs, c'est les histoires qu'on raconte autour. Or, il se trouve que je ne connaissais pas Christian Sciaretti une brochure du divorce du corps et de l'âme était tombée par miracle entre ses mains.
Donc la fameuse pièce que vous aviez
la
traduite.
La fameuse pièce que j'avais traduite et non montée. Et comme il voulait monter le grand théâtre du monde à la Comédie Française, il cherchait une autre pièce, parce que ce sont des pièces courtes, et il voulait monter ce divorce-là. Alors, je n'en revenais pas. Et j'ai tout de suite accepté, à condition de tout retraduire. Parce que...
20 ans plus tard,
c'était
en vous repenchant sur la traduction.
Oh là là. Parce que là, vraiment, c'était... D'abord, ce n'est pas le divorce du corps et de l'âme, c'est procès en séparation de l'âme et du corps. Et d'ailleurs, peut-être que si j'avais intitulé procès en séparation, je n'aurais peut-être pas divorcé, je n'en sais rien. Mais le plus grave défaut de ma traduction juvénile, c'est que, allez, on le dit, je coupais tout ce que je ne comprenais pas. Bon. pour donner plus de vivacité, vous voyez, à l'ensemble. donc, là, ça a été un vrai bonheur de reprendre à zéro et puis de comprendre ce que je ne comprenais pas, que je finissais par comprendre.
Parce qu'entre-temps, vous étiez aussi devenue peut-être une traductrice plus aguerrie,
Florence Delay. Et puis, j'avais une expérience de traducteur et puis aussi les études. Les études... et puis aussi, un retour vers les grands textes de la religion chrétienne. Et par exemple, quand Calderon citait les pères de l'Église, ça ne me faisait plus peur. J'allais voir ce que disait justement ce père de l'Église. Donc, les réticences étaient tombées et j'étais prête à m'agrandir d'autres études et de... Voilà. Donc, c'est en ce sens, si vous voulez, que tout tourne en rond dans ma vie. C'est peut-être pour ça que j'aime tant le rond de la reine. C'est que, finalement, c'est abandonné, puis ça revient, puis ça s'éloigne, et ça me fait penser à ce que dit Gertrude Stein, qui est un écrivain... que j'aime beaucoup, qui m'a enseigné beaucoup de choses, elle parle de l'insistance. Et au fond, il y a quelque chose qui insiste en soi, et si ça insiste en soi, ben, ça peut cogner à votre vitre à n'importe quel moment. Ça revient. Voilà. Et si c'est profond.
Vous disiez en début d'entretien, Florence Delay, que le théâtre, c'était la belle vie. Est-ce que c'était aussi tout simplement la vraie vie?
Alors, la belle vie est un propos juvénile parce que depuis, j'ai connu des comédiens et des comédiennes que j'ai aimés. Je sais que c'est pas la belle vie, que c'est une vie difficile pour beaucoup, que finalement, la sécurité existe peu. Elle existe quand vous êtes dans une troupe, mais combien d'intermittents pour des comédiens assurés de jouer et de gagner leur vie. Donc, c'est peut-être pas la belle vie, mais... c'est la vie rêvée. Je veux dire, c'est une vie qui m'a toujours accompagnée. Oui, vous dire aussi une chose, c'est que parmi les chefs-d'œuvre de Calderon, un de ceux connus en France, parce que la France connaît très mal le théâtre espagnol, c'est La vie est un songe. Et le mystère de la langue veut que le mot sueño, la vida es sueño, en espagnol veut dire à la fois le rêve, le songe et le sommeil. Donc je ne sais pas si on dort quand on joue, mais, ou si on rêve, mais c'est très important dans une conception de la vie de se poser la question de est-ce que la vie est un théâtre, le grand théâtre du monde, dit aussi, est-ce que nous ne jouons pas notre rôle le mieux que nous pouvons ou le plus mal que nous pouvons sur les tréteaux du monde. Enfin, tout ça draine une suite de métaphores qui m'a beaucoup impressionnée et finalement auxquelles je crois toujours.
Merci beaucoup Florence Delay et à demain.
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Mélanie Chalandon rencontre Florence Delay. Attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son François Rivalan, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mélanie Chalandon avec Florence Delay.